Ah, cette main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour,
bonjour
à tous.
Alain.
On parle des arbres avec vous ce matin. Certains arbres en hiver présentent d'ailleurs des écorces d'une grande beauté.
Bon, il y en a beaucoup, il en existe vraiment une très grande diversité. Mais celui qui, à mes yeux bien sûr, offre les couleurs les plus étonnantes est l'Acer Davidii, l'érable du Père David, c'est son nom. C'est un petit arbre qui atteint adulte une dizaine de mètres de hauteur. Ses feuilles prennent de très jolies teintes à l'automne et son écorce, on dirait en fait la peau d'un serpent. Elle est verte striée de blanc, elle est originale et ne ressemble à aucune autre.
L'érable du Père David, de quel pays du monde est-il originaire?
Alors cet arbre est né en Chine et il est introduit en France entre 1879 et 1900. Donc on n'est pas vraiment très sûr au niveau des dates. Ce que l'on sait par contre, c'est que le premier Européen à le découvrir puis le décrire est un religieux. Le Père David.
Et d'ailleurs, ce sont des hommes d'église qui, à cette époque, étaient missionnés en Asie.
Et oui, ils sont en effet les seuls autorisés à visiter la Chine, car ils ne portent jamais d'armes. Armand David est né en 1826 à Espelette, petite ville du Pays Basque, célèbre pour ses piments. Il est ordonné prêtre en 1862 et suit en parallèle des études de théologie, de zoologie et de botanique. Son travail est si apprécié par ses supérieurs qu'il l'envoie prospecter en Chine. Dès 1863, il parcourt les montagnes autour de Pékin. Il observe et collecte des roches, des fossiles, des animaux et bien sûr des plantes. Ce qu'il trouve est si intéressant que le Muséum National d'Histoire Naturelle lui demande d'envoyer en France le plus d'échantillons possible.
Et on le retrouve en 1866 en Mongolie et deux ans plus tard au Tibet.
Ah oui, on peut dire qu'il ne traîne pas et ce qu'il voit à chaque fois bien émerveille les scientifiques. L'ordre religieux auquel il appartient en a conscience et l'autorise à consacrer l'intégralité de son temps aux recherches, ce qui explique pourquoi à peine est-il revenu en France en 1870, qu'il repart pour 2 ans vers l'Asie. Alors Armand David décède à Paris en 1900 et son nom a été donné à de très nombreuses plantes comme le Davidia, c'est l'autre nom de l'arbre à mouchoir, et c'est à lui que l'on doit la première description du Buddleia, de l'érable du Père David, je viens de le dire, et du panda. Vous allez me dire, le panda, aucun rapport avec les plantes.
Aucun rapport avec les plantes.
Non,
si, il mange du bambou.
Oui, mais c'est quand même lui qui a découvert le panda.
Bon.
C'est donc le Père David. Et c'est un homme extraordinaire. L'occasion de rappeler que tous ces botanistes avaient des vies incroyables. Quand on sait aujourd'hui la difficulté à parcourir le monde, imaginez au 19e siècle et avant.
Vos réponses, vos conseils aux auditrices et aux auditeurs de France Inter. Roger a retrouvé un vieux bidon de chlorate de soude et il vous demande, Alain Baraton, est-il encore possible de l'utiliser?
Ah, de le jeter certainement et pas n'importe comment, de le recycler dans un endroit qui accepte les produits chimiques et dangereux. Le chlorate de soude était employé autrefois comme désherbant, mais désherbant total, c'est pas du tout sélectif. C'est une sorte de poudre, il est interdit, je dis ça de mémoire, depuis 2010 à l'emploi. Mais le chlorate de soude, c'était aussi un produit qui, mélangé à du carburant, devenait un explosif. C'est avec ça que dans les campagnes, on faisait sauter les souches. Donc c'est un produit qui est dangereux, qui est polluant. On s'en débarrasse, mais pas n'importe où, pas n'importe comment, dans les centres spécialisés.
Et question de Stéphanie à La Réunion. Est-il vrai que déposer des orties au fond d'un trou de plantation est un excellent engrais?
C'est amusant, il y a beaucoup de trucs et astuces. On vous dit que votre grand-mère, lorsqu'elle plantait des arbustes à feuilles caduques, mettait des touffes d'orties, qu'ils étaient beaucoup plus beaux au démarrage que ceux plantés aux voisins dans les mêmes conditions. Tout ça est complètement pipeau. Ce que je sais, c'est que mettre des pots de banane sous un rosier quand on le plante, oui, c'est efficace, parce que cela s'explique par la décomposition de la peau de banane, mais mettre de l'ortie au fond d'un trou de plantation, ça ne peut pas faire de mal, mais franchement, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de bien.
Quelle différence avec le purin d'ortie dont vous vantez les mérites régulièrement?
Le purin d'ortie, c'est de la décoction, à savoir un liquide obtenu à partir de la décomposition dans l'eau du purin qui, pulvérisé, a des fonctions insecticides.
Angéline, pourquoi dites-vous qu'il ne faut pas planter quand il gèle?
Parce que la plante, elle est fragile et elle ne peut pas cicatriser quand il gèle. C'est la raison numéro une. Si vous vous coupez le doigt, que vous avez un petit pansement, il n'y a pas trop de soucis. Si vous n'avez pas de quoi arrêter le sang, c'est beaucoup plus compliqué. La plante, lorsqu'il gèle, ne peut pas réagir normalement. Et puis, je rappelle que quand on plante un végétal, on se doit toujours d'arroser après pour que les racines soient bien en contact avec la terre. Vu qu'il gèle, on ne peut pas arroser. Donc, il y a des poches d'air. Donc, les racines vont s'échapper. sécher. Donc on ne plante pas, on ne jardine pas. Quand il gèle, les plantes n'aiment pas.
Et n'aiment pas du tout le choc thermique également, sortir les plantes de l'intérieur.
Jamais, pour... Et il vaut mieux sortir une plante de la chaleur vers le froid que l'inverse. L'inverse ne pardonne pas.
Anne-France a encore des choux dans son potager. Le froid peut-il les endommager, demande Anne-France.
Le chou rigole quand il voit le froid arriver. Le chou est l'un des rares légumes originaires de nos régions. Non, le chou ne craint pas le froid.
Bon, eh bien, c'est bref et c'est concis.
Ah bah oui, c'est précis même.
Annie vous demande ce que vous pensez, Alain Baraton, du goutte-à-goutte pour un massif de rosiers.
Quand vous avez installé un goutte-à-goutte, vous avez des fils qui se baladent partout, c'est laid, c'est pas beau. En plus, je vois pas l'intérêt parce que les rosiers, lorsqu'ils sont adultes, les racines descendent en profondeur. Non, c'est encore du travail pour rien, ça vous limite dans l'entretien du massif, c'est pas très beau. Le jardinage, c'est aussi s'occuper et regarder les plantes, de leur donner à boire quand elles en ont besoin. Si demain le jardin devient automatique, j'ai bien peur que ce soit le jardinier qui lui aussi devienne automatique.
Allez, un dernier conseil, lecture ou une sortie ?
Allez, deux nouveaux livres dans la collection et création du club. C'est publié chez Terre Vivante et chez Plume de Carotte, Les Aventuriers au jardin bio. Premier exemplaire, ils explorent les sciences. Deuxième exemplaire, ils accueillent les animaux. C'est tout pour les enfants. C'est passionnant, ils apprennent plein de choses. Il y a des jolis dessins, de jolis textes.
Alain Baraton et sa main verte, merci Alain, et à samedi prochain.
À samedi.